Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 796 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. J'appelle que nous sommes la seule émission de radio au monde en langue française à 100% dédiée à l'univers des vins et des spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, en cœur de Paris d'ailleurs, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio et Sud Radio à Paris en Ile-de-France sur 99.9 et on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec un zoom sur un très beau vignoble Cheverny, le panorama des cépages plantés en France et dans le monde, on en parlera aussi, Saint-Tropez également et le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Florence Corbalan, Philippe Aubrac et Claude Sassoulas. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette émission Invino sur Radio, on retrouve Florence Corbalan, notre sommelière et chanteuse lyrique, pour accueillir une femme qui est juste formidable, on pèse les mots là, Aurore de Villard. Bonjour Aurore.
Bonjour Alain, bonjour Florence.
Alors Florence,
bonjour Aurore.
Est-ce qu'elle est vraiment géniale cette fille?
Mais bien sûr.
Ah bon?
On va
bon.
Commencer par le début. Vous faites des études de commerce à Paris, vous avez une première vie professionnelle qui débute en 1994 dans l'univers du luxe, auprès de marques comme Ardenne, Cerruti, Valentino, Clarins, etc. En 2012, un événement très douloureux arrive dans votre famille. Et là, vous arrêtez net et vous dites « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie ?» Recentrage total, vous quittez votre vie parisienne.
Mais pas son mari, attention.
Non, ouais. Surtout pas. Ouais. Vous décidez de retrouver vos racines bourguignonnes pour poursuivre l'aventure familiale. Une famille héritière de 5 générations qui perpétue la grande histoire du château de Chamiré. Votre famille a fait le pari de travailler ensemble et ça continue encore aujourd'hui. Alors, en quelques mots, quelle est l'histoire de ce château de Chamiré ?
Alors, déjà, en fait, le revirement s'est créé en 2002 et pas en 2012. Donc, 10 ans plus tôt.
J'ai dit ça... 2012, ah, pardon.
Oui, mais 2002.
Fait tellement jeune, Aurore.
2002, effectivement, un événement, la mort de ma mère, qui nous a transmis tous ces domaines à mon frère et moi. Et là, ça a été un vrai choc et du coup, une vraie remise en question. Et je me suis dit, finalement, ma vie... j'ai envie d'en changer et de revenir vers mes racines et de perpétuer l'affaire familiale. Donc ça a été vraiment... Et je suis repartie à Dijon, reprendre mes études, des études assez générales sur le vin. Et j'ai plongé dans les domaines où je travaille aujourd'hui avec mon père et mon frère.
Donc, et il y avait au départ Chamiré, il y a eu d'autres domaines ensuite.
Oui, alors le Chamiré, qui est à Mercuré, donc sud de la Bourgogne, au cœur de la Côte Chaonnaise, c'est vraiment le berceau de la famille. Et c'est de là que tout est parti. Et puis,
il y a combien d'habitants à Mercuré ?
À 1200.
1200, oui.
1200, les bonnes années.
Ouais. Mais pour revenir à tous ces domaines, chacun a son propre caractère, mais ils sont tous conduits avec le même esprit, c'est ça ?
Voilà, exactement. C'est un peu comme les enfants d'une même famille ou les 5 doigts d'une main, je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour nous, c'est très important de garder l'ADN de chacun de ces domaines, puisqu'on en a... en Côte Chalonnaise, Mercuré, Givry, et puis aussi un autre en Côte de Nuit, le domaine des Perdrix, que mes parents ont repris en 96, donc à 80 km au nord de Mercuré, avec des terroirs très différents, forcément, des climats très différents, et une façon aussi enfin, des pinots qui finalement sont... proche et pas très proche de la Côte Chalonnaise.
Donc, et aussi pour nous, le domaine de la Ferté pour tous les...
Exactement, voilà. Le domaine de la Ferté en Côte Chalonnaise à Givry, à côté du château de Chamiré. Et puis un petit domaine aussi qui s'appelle le domaine de la Garenne dans le Mâconnais, qui là ne nous appartient pas, mais appartient à la belle famille de mon frère, la famille Beaumont, mais dont on est responsable de A à Z, puisqu'on s'occupe de la conduite de la ville.
Et alors, l'actualité, il y a une actualité aussi là. Hein, ça y est, vous avez franchi les frontières, là, direction le Jura.
Justement. Alors oui. Alors pourquoi le Jura ? Donc en 2018, avec votre frère, vous sortez en quelque sorte de votre zone de confort et vous rachetez avec deux partenaires le fameux domaine Rollet. C'est le plus grand domaine viticole indépendant du Jura, fondé en 1942, avec ses 65 hectares connus pour la qualité de ses vins, avec des belles appellations comme l'Arbois, les Côtes du Jura et l'Étoile. Mais pourquoi le Jura ?
Alors, d'abord, avec mon frère Amaury, ça nous titillait depuis quelques années de développer nos affaires et d'aller voir un peu ailleurs et de s'y frotter. Et aussi, peut-être aussi, de créer quelque chose qui soit propre à notre génération. C'est-à-dire qu'on sait la chance qu'on a, on a reçu tout un tas de valeurs, on a reçu un patrimoine qu'on cherche à fructifier, à transmettre à notre tour à nos enfants, mais c'est pas nous qui sommes à la
non,
source
c'est vrai,
de
vous,
ça.
Vous l'avez pas créé.
On est en héritier, entre guillemets. Héritier, travailleur quand même. Hein, je tiens à le souligner, surtout en ce moment.
Vous n'êtes pas rentier
non,
hein,
pas du
dans
tout.
La famille.
Mais on avait aussi envie de créer quelque chose à nous deux, et puis on a commencé à réfléchir. Bon, bah, la Bourgogne, forcément, était assez logique,
mais
aujourd'hui, la Bourgogne échappe aux Bourguignons. Donc, assez vite, enfin, on n'a pas cherché très longtemps, hein, on a compris très rapidement que finalement...
Le prix de l'hectare en mercuré, par exemple, on est à combien en moyenne, hein, Aurore, en moyenne,
hein, on est
quand on en trouve, hein.
En moyenne, on est à 300 000 euros l'hectare.
Ah, quand même, ce qui est quand même élevé.
Aujourd'hui. Ouais. Mais la côte chaonnaise, c'est cadeau par rapport à la côte de Beaune et la côte de Nuits. Hein.
Mais vous connaissiez déjà le domaine Rollet?
De nom, oui, mais honnêtement, je ne me souviens pas avoir dégusté un vin du domaine Rollet avant ça.
Et c'était un coup de cœur?
Ça a été un coup de cœur. Alors, bon, la Bourgogne, on a mis une croix dessus assez vite. Après, on a été peut-être voir des choses un peu plus exotiques. On a pensé au Portugal avec le Douro, on a pensé à l'Oregon, où il y a des très jolis pinots. Mmh. Et puis, un jour, le dossier Rollet est arrivé sur notre bureau. Et là, c'était pas une évidence, hein, franchement, dès le départ. Et là, on s'est dit, bon, c'est à 1h15 de chez nous, à Mercuré, donc on va aller voir. On a traversé la Saône et on est tombé amoureux. On est vraiment tombé amoureux des terroirs. Et surtout, on a compris qu'en fait, la topographie jurassienne est très proche de la topographie de la côte chalonnaise, c'est-à-dire des vallons assez doux, des terroirs en fait ultra intéressants. On y est allé une fois, deux fois, trois fois, et là on s'est dit, bon bah là c'est une évidence, on peut pas passer à côté.
Et c'était une affaire familiale aussi ?
C'était une affaire familiale qui appartenait à quatre personnes, quatre frères et sœurs de 70 à 76 ans, qui malheureusement je pense n'avaient pas très envie de vendre, ça a été un crève-cœur pour eux, mais n'avaient pas d'enfants qui voulaient reprendre.
Et vous êtes bien tombé quand même.
Alors on est bien tombé. Alors les terroirs jurassiens sont absolument magnifiques, les vins aussi. Les jurassiens ont un vrai caractère.
Oh.
On dit que les bourguignons en ont un, mais alors je pense que le jurassien est encore.
C'est pire.
Le jurassien, en plus d'être terrien, est montagnard. Donc c'est une affaire.
C'est assez rustique, vous voulez dire, assez rustique.
Hein. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mon cher Alain.
Typé.
Typé. Voilà.
Oui, voilà, typé comme leur vin. Mais est-ce que là aussi.
Galette des rois,
est-ce que l'idée, c'est de poursuivre le travail qui a déjà été commencé, ou est-ce que vous voulez changer de cap?
Complètement. Alors, on n'a pas du tout envie d'aller faire des vins de Bourgogne dans le Jura, ça c'est très clair. On l'a dit haut et fort et on y croit vraiment. Il y a dans le Jura une typicité justement des vins qui est ultra intéressante, et on n'a pas du tout envie aujourd'hui de changer de cap. Donc les relais ont fait, on bâtit en deux
un
générations.
Super boulot, quoi.
Un empire, puisque c'était la deuxième génération qui a vendu. Honnêtement, 65 hectares dans le Jura aujourd'hui avec la réputation des vins. Chapeau. On leur a dit, et nous on veut perpétuer, enfin on est dans une tradition aussi, et on a envie de perpétuer tout ça. Je dis que c'est l'évolution sans la révolution. Et là on sort de tout un tas de salons, puisque c'est la saison en ce moment, et j'ai été assez étonnée, assez scotchée en fait de l'intérêt, de l'engouement des consommateurs.
Les gens découvrent. Et le cépage d'ailleurs roi dans cette région, c'est...
Alors le cépage roi, c'est le savagnin pour le blanc. Et puis, merci, c'était un test, Alain.
Oui, bien sûr.
J'ai un peu révisé quand même.
Le chardonnay est pas mal aussi.
Le chardonnay est même le premier encépagement du Jura.
Merci beaucoup. Et travailler en famille avec Amaury, tout va bien?
C'est formidable, c'est politique,
chance,
et on gagne beaucoup de temps, c'est génial.
Bravo, super parcours à tous les deux. Invino Sud Radio, merci Florence aussi. Retrouve Philippe Forbach pour une balade qui est un tout petit peu différente, mais dans une belle région aussi, direction la Loire, avec un beau château, votre dernière demeure, là, achetée hier matin. Chez Verny.
C'est clair. Je l'ai racheté aux héritiers de d'Hergé, puisque ça servit quand même de modèle au château, le fameux château de Moulinsart, célébrissime château, de style Louis XVI, situé à côté de Blois, pas très loin de près de Chambord, finalement, pour situer un petit peu les choses, dans le département du Loir-et-Cher. Et dans ce département-là, il n'y a pas que de la boue et des dîners à faire éventuellement le samedi soir avec des amis, mais il y a surtout de très jolis vins originaux. Le Cheverny en fait partie, et le Cours Cheverny, j'en parlerai légèrement après, est aussi très intéressant. Alors Cheverny, c'est non seulement une commune, mais c'est aussi une appellation d'une 525 hectares en tout, qui produit beaucoup de vins blancs élaborés à partir de chardonnay. On y revient, c'est quand même un cépage qui est légion dans pas mal d'endroits, mais agrémenté ici du cépage local qui est quand même le chenin, et de notre de cépages qui est le Sauvignon, et les trois cohabitent extrêmement bien. Le Chardonnay
apporte. Donc ce sont les assemblages, Philippe, c'est ça ?
Exactement, le gras, la matière, le Chenin, cette touche de fraîcheur et cette petite pointe un peu d'amertume en finale qui donne un soupçon de longueur incroyable, et le Sauvignon qui est ce côté attirant et séducteur de ce cépage aromatique. Et ça donne des vins blancs extrêmement fins en même temps, qui savent se laisser goûter assez tôt. Quasiment dans l'année qui suit la récolte, on a déjà beaucoup de plaisir à les goûter, qui peuvent se garder, pas éternellement, mais 4-5 ans sans aucun problème, et qui sont d'excellents vins d'apéritif. Les rouges, eux, sont élaborés à partir de Pinot Noir. Vous allez me dire, c'est une série, là, ça fait quelques semaines que vous nous en parlez, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais pas que. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai un petit fait pour ce cépage. On peut les associer au Gamay, qui donne un peu plus de virilité un peu au vin, et deux autres cépages qui manquent pas de virilité aussi, puisqu'on a des Cabernets, Francs et Sauvignon, et surtout le Côte, qui est le fameux Malbec du Sud-Ouest, ou l'Auxerrois, comme à Cahors, on le cite,
oui.
Mais qui pourtant est dans son nom originel, le Côte, et qui est CO avec un accent circonflexe T à la fin, qui donne de la couleur, de la matière, et qui franchement est un vin qui là aussi sait à la fois séduire au bout de 2-3 ans, mais qui sait aussi patienter pendant quelques années.
Il faut les déguster jeunes, Philippe, ou ils ont un potentiel de garde tant en blanc qu'en rouge?
Alors dans les deux cas, on peut les goûter, je l'ai rappelé rapidement,
oui,
mais rapidement, c'est-à-dire dans l'année ou les 2-3 ans qui suivent, mais pour les rouges, bien entendu, un peu plus que pour les blancs, et surtout lorsque le cépage côte est assez majoritaire, on peut sans aucun problème les garder jusqu'à une dizaine année avec beaucoup d'intérêt. Il y a aussi des rosés dans cette appellation, c'est pas grand, mais on y fait quand même pas mal de choses. Et avec un cépage original, puisque c'est le fameux Pinot d'Onis, Pinot EAU à la fin, et pas comme le Pinot Noir avec OT, qui donne des vins dont la fraîcheur aromatique n'est égale que la densité poivrée finalement de ce vin. Et c'est vraiment ce qui les caractérise. Si vous sentez ce poivre frais, vous remuez un petit peu les
ça
narines.
Ça y est, on y est, c'est ça.
On est sur ce cépage. Alors, du côté de Vendôme, pas très loin, on en produit aussi un très bon, mais du côté de Cheverny, il est également extrêmement intéressant.
Quelques vignerons peut-être, Philippe?
Quelques vignerons qu'il ne faut pas louper, le domaine des Chéneaux, le domaine des Huards, qui est un de mes préférés, le domaine du Moulin, ou encore le travail fait dans le domaine Philippe Tessier. À signaler donc à côté le fameux Courcheverny, qui est très différent, puisque le Courcheverny est fait avec le Romorantin, qui est un autre cépage historique, dit-on, apporté par François Ier à l'époque des Médicis, et replanté ces dernières années d'ailleurs dans le parc du château de Chambord, puisque c'est ce cépage qui a été choisi et planté avec des vignes de l'ami Henri Marionnet, effectivement, à proximité du château.
Merci
très
beaucoup.
Très intéressant, et pardon, juste un bon rapport avec les touristes.
Excellent, et ça on peut souligner.
Entre 10 et 15 euros.
Dans Cheverny, qu'on
exactement, on peut trouver des vins remarquables.
Merci Philippe Orbach, et merci à tous. Dans un instant, le Ville Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm, et puis en plus, direction le panorama, à parler des cépages, des panoramas. Ces pages français, mais également dans le monde.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au restaurant Bar à Vin, Nicolas, nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec The Philippe Orbach et puis le Ville Quiz, Philippe.
Donc je vous rappelle le principe, en ce début d'année, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du livre de David Cobold. Vous allez enfin vous y connaître en vin.
Enfin.
Voilà, la question de ce week-end. Le domaine de la Garenne, distribué exclusivement par la famille de Villard, a pour emblème, réponse A, un renard, réponse B, un lapin, ou réponse C,
une panthère.
Une perdrix.
Ah, une perdrix.
Ah non, une perdrix. On a choisi la perdrix. Voilà, pour répondre et gagner un exemplaire, on vous le souhaite, en ce début d'année, hein, du livre de David Cobold, vous allez enfin vous y connaître en vin. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
On a la chance de compter Aurore de Villard parmi nous, mais Aurore, vous ne dites rien. Hein. Il reste encore un quart d'heure, on ne dit rien du tout.
Je ne peux pas donner mon 06 pour la réponse.
Non. Vous pouvez essayer, vous allez être submergé. Merci Philippe, en tout cas. Invino Sud Radio retrouve Claude Sassoulas, directeur des opérations chez Interclaud. Et puis, grand amateur de vin, vous êtes là pour nous parler de choses qui vous tiennent à cœur en matière d'œnologie, de Bacchus également. Et aujourd'hui, on parle de cépage, Claude.
Voilà. Oui, en fait, j'ai eu envie de faire ce panorama des cépages plantés dans le monde. Parce qu'on parle beaucoup de nouveaux pays producteurs aujourd'hui, comme notamment la Chine, mais aussi de changements climatiques qui vont demander une adaptation non seulement des méthodes de production, mais probablement aussi remettre en cause les choix de cépages utilisés. Donc pour commencer, le vignoble mondial, c'est entre 7,5 millions et 8 millions d'hectares.
Au total, hein, tout au pays total, confondu. Quoi,
voilà. Oui. Les quatre plus grands vignobles du monde sont l'Espagne, la Chine, la France et l'Italie, qui représentent plus de 40% du vignoble mondial. Alors je ne sais pas si la Chine est en train de rattraper l'Espagne, probablement. L'Espagne, c'est à peu près 1 million d'hectares de plantés.
Philippe
Orbach, avec le petit distinguo que finalement peu de vignobles en Chine servent à faire du vin. puisque c'est juste effectivement à peu près 10% de la surface plantée.
C'est ça, on va y venir, absolument.
C'est intéressant de...
Voilà. Donc ce vignoble, en termes de surface, est globalement stable. Mais en fait, donc, la Chine est en forte croissance. Elle a presque triplé sa surface de production en 20 ans. Et de nombreux grands pays sont en décroissance, comme l'Australie, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui avaient beaucoup, beaucoup planté et se focalisent aujourd'hui sur la qualité. Il y a eu des problèmes d'irrigation, des problèmes de manque d'eau qui ont fait que l'Australie notamment a arraché énormément de vignes. Alors maintenant, quels sont les cépages plantés ? Si je vous pose la question, donc autour de cette table, de me citer les 5 cépages les plus plantés dans le monde.
Alors le Savagnin, clairement.
Chardonnay,
2 ou 3. L'Airen, qui est un grand cépage.
Chardonnay, Pinot Noir.
Non, pas toujours nécessairement ceux-là qui sont les plus
plantés. Eh oui, mince.
Alors en fait, c'est très compliqué. Alors c'est très compliqué parce que, comme Philippe l'a dit, deux des 3 cépages les plus plantés dans le monde sont destinés à produire des raisins de table.
Du chasse-là.
Alors le premier, c'est un cépage d'origine japonaise qui s'appelle le Kyoho et qui couvre 400 000 hectares, dont 90% en Chine. Le troisième s'appelle le Sultana. C'est la première variété sans pépins cultivée dans le monde. Il est originaire d'Afghanistan et il couvre près de 300 000 hectares.
Donc ça, 300 000 hectares. On trouve pas mal dans les magasins puisqu'il se vend en raisin de table.
Et donc en fait, ces deux cépages,
type
en fait,
de raisin,
ces deux types de raisins, c'est le vignoble français. C'est l'équivalent pratiquement du
de la surface, vignoble, plantée,
de la
en
surface
France,
plantée en France. Donc en fait, les cépages destinés à la production de raisins de table, c'est à peu près 10% du vignoble mondial. Bon, maintenant, ça c'était pour le fun. Passons aux cépages utilisés pour la production de vin. Donc pour le rouge, c'est le Cabernet Sauvignon, suivi du Merlot, le Tempranillo et la Syrah. Alors le Cabernet Sauvignon, c'est énormément en France, c'est un cépage évidemment d'origine française, il est en forte croissance en Chine, beaucoup de plantations de Cabernet Sauvignon en Chine. Le Merlot est présent dans une quarantaine de pays, originaire de Bordeaux. Le Tempranillo, c'est bien sûr un cépage d'origine espagnole, donc 90% des plantations de Tempranillo sont en Espagne. Et enfin, la Syrah, plantée dans une trentaine de pays, originaire de la vallée du Rhône, est très plantée dans les pays du Nouveau Monde. Alors évidemment, l'Australie, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Au niveau du blanc, Philippe, bravo, vous aviez raison, l'Airen est le cépage blanc le plus planté dans le monde.
C'est pas espagnol.
Seulement en Espagne, ça représente plus de 20% du vignoble espagnol.
Et c'est important.
Et principalement dans la Mancha. Et en fait, c'est un vin. Il sert à faire des vins de table, mais surtout des vins destinés à la distillation. Le brandy de Jerez est fait principalement à base de.
Mais c'est un bon cépage quand même, Philippe, parce que généralement, quand on distille, c'est que c'est pas terrible, non ?
C'est un cépage assez producteur qui donne des résultats moyens en termes de qualité de vin, mais extrêmement intéressant pour la distillation.
Voilà. Donc ensuite, on trouve le Chardonnay et le Sauvignon, donc les cépages probablement les plus internationalisés. Le Chardonnay, évidemment, la Bourgogne, mais aussi la Champagne, les États-Unis, l'Australie, le Chili, qui est la base de beaucoup de vins effervescents, je pense, dans le monde aussi. Et puis le Sauvignon, c'est notamment le Sauvignon, le cépage le plus planté en Nouvelle-Zélande. Et on le trouve dans de très, très nombreux pays. Alors, si on vient maintenant en France... au niveau du rouge, c'est le Merlot qui est le cépage le plus planté, suivi de la Grenache, du Grenache, de la Syrah et du Cabernet Sauvignon. Pour les blancs, alors, à votre avis, dites-moi.
L'Uniblanc,
bravo. Et là encore, c'est le vin qui sert à faire notamment du cognac.
En Charente,
En Charente. Donc, il représente un tiers des plantations de cépages blancs en France. Ensuite, on retrouve le Chardonnay et le Sauvignon, donc des cépages beaucoup plus classiques dont on a parlé tout à l'heure en Bourgogne, dans la Loire et puis dans le Jura. Alors, en termes d'évolution, ces 10 dernières années, des cépages comme le Carignan et le Gamay sont en forte baisse, alors que la Syrah et le Merlot ont progressé, mais aussi et surtout en fait, des cépages secondaires comme le Caladoc ou le Marcellan, qui chacun sont plantés sur plus de 5000 hectares en France, ce que j'ignorais, mais aussi des cépages locaux comme évidemment le Malbec dont on a parlé, et puis le Tchacarel ou le Nielouch.
Il y a des cépages à la mode, hein, Philippe Forbrac, hein, Parpaillot, il y en a qui ressortent un peu là, qui hop.
Il y a des cépages à la mode.
Ils disparaissent parfois après.
On en parle régulièrement. Il y a des cépages aussi qui sont nécessaires à l'équilibre des vins. Mmh. On retrouve d'anciens cépages aujourd'hui avec l'évolution du climat, qui sont extrêmement utiles, notamment pour éviter les degrés d'alcool trop importants.
Claude.
C'est ça, et puis bon, là, c'est aussi la remise au goût du jour de certains cépages, je pense, dû à. Par exemple, je pense à la Corse que je connais un petit peu, il y a énormément de vieux cépages qui sont plantés à nouveau. qui n'existe, dont on ne parlait
pas. Et ça, c'est une chance d'année. Ça.
Le Bianco Gentile, par exemple.
Voilà. Et puis, ça participe aussi à la, enfin, à la réputation du vignoble.
Exactement.
Donc ça, je trouve que c'est, enfin, c'est une très bonne chose. Ensuite, donc comme je disais, on assiste à une petite recomposition du paysage, donc des cépages. Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même de nombre, enfin, 4, 5, 6 ans à la vigne pour produire du vin. Donc je pense que l'arrivée de nouveaux producteurs, le réchauffement climatique et ses conséquences, et puis la remise au jour de certains cépages vont faire que ça va changer petit à petit.
À suivre, merci beaucoup Claude Tassoulas. Indino Sud Radio retrouve le grand sourire de Florence Corbalan, sommelière et chanteuse lyrique, avec aujourd'hui une balade à Saint-Tropez. Hein,
oui. Ça,
vous avez envie d'y aller là,
hein? Ah oui, ouais. J'ai envie, puis alors, bon. Je vais vous raconter une histoire géniale. Donc nous sommes sur la presqu'île de Saint-Tropez, dans la plaine des Salins.
Et Claude, Saint-Tropez.
Elle se la pète. La presqu'île est une avancée du massif des Maures dans la mer Méditerranée, dans le Var, entre le port Grimaud et la croix Valmer. C'est bien de situer l'histoire. Maintenant, le personnage principal s'appelle Laurence Berlemont. C'est une jeune ingénieure agronome et œnologue qui commence à intervenir sur quelques domaines de la côte à l'époque. Et tout part d'un projet immobilier sur cette presqu'île. 8 lots sont à vendre et chacun comporte une ancienne vigne abandonnée. Alors l'histoire commence en 2000 par le coup de fil d'une Anglaise qui avait fait l'acquisition d'un des lots en question. Elle a entendu parler de Laurence Berlemont et elle lui demande de s'occuper de ces 2 hectares de vignes mais qui sont dans un état déplorable. Alors, ma foi, c'est une belle opportunité pour cette jeune œnologue de 28 ans. Elle accepte de prendre ses vignes en fermage. Bon, ceci dit, l'endroit est magnifique. Hein. Elle découvre un grand mas blanc avec les vignes devant et un peu plus bas, la forêt et la plage. Il y a pire comme lieu de travail. Hein. Alors, Laurence s'associe avec Patrick Devaux et ils commencent les gros travaux de débroussaillage, etc. Et contre toute attente, la vigne ressuscite et les raisins deviennent beaux.
Oh, quelle belle histoire.
Et ouais, et c'est pas terminé.
Cendrillon.
Ça commence à se savoir et petit à petit, les propriétaires des autres lots demandent eux aussi à ce que Laurence Berlemont prenne leur vigne en fermage. Alors, elle se retrouve donc responsable de 8 parcelles du fameux projet immobilier qui, du coup, n'est plus d'actualité. Ce qu'elle ignore, c'est qu'avec ses différents fermages, elle a reconstitué l'ancien domaine de Jacques Angelvin. Est-ce que vous vous rappelez de Jacques Angelvin ?
C'est des parrains de la côte,
ouais.
Hein.
Alors, on y arrive. Mmh. C'était un animateur radio, mon cher Alain Marty, et acteur de cinéma, né en 1914 à Marseille. Il était connu des gens de la nuit, c'est un flambeur. Et dans les années 55-60, il commence à avoir de sérieuses dettes. Donc, le sachant, les caïds de la French Connection le drague et il devient une mule. Une mule, ce sont ceux qui font passer l'héroïne depuis Marseille jusqu'aux États-Unis. Sauf qu'il se fait attraper en 62 par la police des stupes à New York parce qu'il débarquait avec sa buick dans laquelle il avait caché 52 kilos d'héroïne.
Quand même,
ouais, dans la carrosserie. Non, mais ça a fait un grand bruit. Hein. Et après, il a été libéré en 67, il est devenu agent immobilier, puis il est décédé en 78. Et
collectionneur de voitures, enfin, il a fait des choses. Quoi.
Gérard Houry s'est inspiré de cette histoire pour faire le Cornio en 1964.
Avec le diamant, comment ça s'appelle ce diamant là.
Pour en revenir à ce domaine de Jacques Angelvin, il a été vendu puis découpé en 8 lots, comme je vous disais, à son arrestation. Donc aujourd'hui, le domaine est donc reconstitué. Il est devenu la ferme des Lys, un domaine de 8 hectares planté avec du Roll pour les vins blancs, avec du Cabernet Sauvignon, du Tibourin et du Grenache pour les rosés et les rouges. Donc, concernant les vins, Florence Berlemont et Patrick Devaux prêtent une attention particulière aux vinifications pour créer des grands vins destinés à la gastronomie. Et même, selon les années, certaines cuvées ne seront pas gardées parce qu'elles ne correspondent pas à la qualité souhaitée. Alors pour les avoir dégustés dernièrement, là, j'ai compris que cette femme maîtrisait le cépage rôle comme personne. On peut dire qu'il a le rôle principal.
Oh,
oh yeah. C'est rare en Provence, parce qu'en général, on travaille beaucoup le rosé et en quantité. Là, elle pousse le rôle au maximum de sa maturité pour voir ce qu'il donne. Et elle arrive à créer de grands vins et à tous les âges. Elle était là, vraiment au bout de ce que ce cépage pouvait faire. C'est une réelle réussite. Ce qui est intéressant, c'est que ce cépage a une belle acidité, même à maturité. Donc je décerne l'Oscar à toutes ces cuvées. Le blanc Ferme des Lys 2017.
Excellent.
Mais oui, mais attendez, c'est un assemblage de rôles cueillis en 3 fois, à 3 niveaux de maturité différents, ce qui en fait un vin complexe avec des notes de fruits exotiques, véridiques, hein, je l'ai goûté, et de fleurs séchées. C'est génial.
Merci beaucoup Florence Corbalan, merci également à vous Claude Assoulas et Philippe Aubrac. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisé. Nous serons au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Au menu notamment le domaine de la Bégune à Bandol, excellente maison, la mention XXO pour le cognac, et puis une belle réflexion qui va tous vous passionner. On va parler de sexe et de vin. Voilà. D'ici là, on se calme. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Et surtout, n'oubliez pas, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.